Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h40, vous êtes donc bien toujours sur France Inter et c'est l'instant même qui recommence.
Merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Les forces de l'ordre visent-elles délibérément les journalistes pendant les manifs? Matériel confisqué, insultes, intimidations, pire, atteintes physiques. De nombreux cas ont été depuis un an recensés et dénoncés. Mais ce mois-ci, un cap est franchi. Un syndicat de police a diffusé sur Twitter une liste de 5 confrères nommément cités et accusés de nourrir la haine anti-flic. Parmi eux, des reporters de terrain, justement, qui filment et documentent les rassemblements. Parmi eux, également David Dufresne, le confrère qui a compté les manifestants, mais aussi les journalistes blessés par les forces de l'ordre et qui n'a cessé d'interpeller le ministère de l'Intérieur sur le sujet. Très isolé à ses débuts, son travail sert désormais de source à d'autres médias qui lui emboîtent le pas.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Et il est là, David Dufresne. Bonjour David.
Bonjour, bonjour.
Le compte d'Avduf, toujours actif sur Twitter, la carte qui permet de visualiser les informations que vous recueillez depuis un an, toujours en ligne sur Mediapart. Journaliste, écrivain, documentariste, amoureux de Pigalle, du punk et de Jacques Brel, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur le maintien de l'ordre en France, s'est inventé, là, récemment, un double de fiction. Dernière sommation, c'est votre premier roman, vient de paraître aux éditions Grasset. On va en parler dans quelques minutes avec vous, David Dufresne. Mais d'abord, l'actu. Là, vous allez entendre des extraits d'une vidéo prise sur le terrain au cœur de la manif du 1er mai. Taha Bouhaf, journaliste et vidéaste, se fait confisquer son téléphone par des policiers.
Rendez-moi mon téléphone ! Lâchez-moi ! Je suis prêt !
Arrêtez !
Téléphone jamais rendu, téléphone détruit sur le moment. David Dufresne, un mot d'abord sur cette actualité. Il va y avoir dans 15 jours, discutée en séance publique, une loi, une proposition de loi contre la haine, dite loi Avia. Il se trouve que le sénateur LR, Jean-Pierre Grand, sénateur de l'Hérault, dans le cadre de cette proposition de loi, propose lui un amendement. 15 000 euros d'amende. 15 000 euros d'amende lorsque quelqu'un, journaliste ou pas journaliste, décide de filmer les fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions. Vous en pensez quoi ?
Alors écoutez, c'est la vieille tirade. Cacher ces matraques que je ne saurais voir. Cacher ces LBD que je ne saurais voir. C'est en totale contradiction avec ce qui, moi, m'anime depuis toujours. Et c'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. Je vais vous le lire, il est magnifique. C'est quand même des gens qui sont emmerdés en 1789 à écrire des choses assez jolies. Oui. L'article 12 dit « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Le mot majeur, c'est « public ». La police est un service public, c'est-à-dire qu'il est la police, elle est au service du public et au sens du 18e siècle, public, ça veut dire aussi publicité. Ça veut dire qu'on doit pouvoir regarder, on doit pouvoir observer, on doit pouvoir.
Alors le sénateur qui propose cet amendement, c'est 15 000 euros d'amende si l'on filme, on diffuse des images de la police sans l'accord de la police. Se réfugie lui derrière un argument qui n'est pas anodin non plus, qui est un motif de sécurité, c'est-à-dire que on rend facilement identifiables des hommes et des femmes, des fonctionnaires de police qui peuvent potentiellement devenir des cibles. Donc l'idée, c'est de les protéger.
Oui, bien sûr que c'est de les protéger, mais en réalité, c'est pas, ça c'est ce qui est annoncé. Mais la réalité, c'est qu'on veut masquer. Que se passe-t-il depuis un an dans les rues en France? On voit de plus en plus des policiers se masquer.
Se
cagouler. On voit des RIO, donc des numéros d'immatriculation, de matricules qui sont, pas portés, qui sont cachés, qui sont masqués. On voit des plaques minéralogiques qui sont masquées. Dès lors, on n'est plus dans l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. On est dans autre chose que la police. On est dans autre chose qu'une force publique. On est dans quelque chose qui veut se cacher. Et par ailleurs, cet amendement, si on veut ironiser, il est assez terrible pour l'IGPN. L'IGPN est incapable d'identifier sur vidéo les policiers qui sont mis en cause. Hein, on voit bien affaire après affaire que les affaires sont classées, etc. Et voilà donc un sénateur qui nous dit, alors quand même, ce serait bien de flouter les visages des policiers pour pas qu'ils soient reconnaissables.
Je vous fais écouter l'extrait d'une vidéo tournée par Gaspard Glantz, oui. Journaliste et reporter de terrain, au milieu de l'acte 23, au mois d'avril, manif de gilets jaunes.
Vous êtes le seul à porter votre matricule, pourquoi les membres de votre unité ne le portent pas ?
Désolé.
C'est bon, on arrête ! Restez alignés !
Ça, c'est très bien, vous le portez, mais lui, il ne le porte pas, lui, il ne le porte pas non plus.
Et en fait, il n'y en a aucun qui l'a, en fait.
Voilà, des fonctionnaires de police qui ne portent pas leur matricule. C'est intéressant, cet usage du téléphone portable ou de la caméra en manif. En ce moment, il y a un film qui fait un triomphe au cinéma qui s'appelle Les Misérables.
Absolument.
Qui se passe à Montfermeil, film de fiction. Mais tout l'argument du film, c'est qu'est-ce qui se passe quand une bavure policière est filmée par de simples citoyens.
Oui, oui. Et si vous voulez, alors le film est absolument formidable là-dessus, parce que Lajli, le réalisateur, je crois qu'il filme ça l'été 2018, avant, en 2016.
C'est ça, été 2018.
Non, été 2018. Il devance ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce film, on voit très bien que il y a une bavure policière, il y a un problème, on va pas divulgâcher, mais et puis c'est filmé. Et tout le problème est là. Et tout le problème est le fait que ce soit filmé. Mais en fait, si on réfléchit bien, depuis Rodney King en 81,
il devance oui et non, parce qu'il y a eu les émeutes en 2005. Et il y a toute l'histoire des États-Unis où la caméra et parfois le téléphone est une arme et demeure une arme contre les violences policières. C'est-à-dire témoigner, filmer, mettre en image, archiver.
Mais simplement, on est dans l'application de la force publique, c'est-à-dire publicité qui doit être su et au vu de tout le monde. Ça ne peut pas être caché, ça ne peut pas être masqué, ça ne peut pas être flouté. Sinon, tout le monde a compris ce que ça veut dire.
Alors, David Dufresne, je vous ai proposé...
Non, mais attendez. Oui. Sinon, c'est quoi ? C'est plus la police, c'est la milice. Sinon, c'est quoi ? C'est l'abus de pouvoir garanti. On a déjà un sentiment d'impunité dans la police pour ce qui est des violences policières, qui est très fort. On voit que les enquêtes IGPN sont la plupart, dans tout ce qu'on a signalé, dans tout ce qu'on a démontré, documenté, qui a été repris par l'ONU, par le Conseil de l'Europe, par le Parlement européen, autrement dit par de dangereux gauchistes. On voit très bien ce qui est à l'œuvre, c'est-à-dire l'idée, par ce sénateur de « on ne veut pas filmer », par l'IGPN de masquer les choses, c'est absolument impossible, c'est pas tenable, ce n'est pas responsable de la part... Il faut vraiment que les choses passent. Alors, que la justice passe.
Si je vous ai proposé de venir ce matin et d'être l'invité de l'Instant M, c'est parce qu'un syndicat de police, un syndicat français, diffuse une liste de journalistes présentés comme des ennemis de la police nationale. C'est le syndicat indépendant des commissaires de police. Le message a été posté sur Twitter le 7 décembre dernier. Il a été largement relayé. Il y a 5 noms qui sont donnés par ce syndicat. David Dufresne, c'est donc vous. Tahabouaf, on en a parlé tout à l'heure. Gaspard Glantz, Alexis Poulain et un compte Twitter dit « Le Général, c'est un collectif ». Vous êtes tous accusé d'alimenter une haine anti-flic et de vous délecter du climat. Ça s'est produit, ce message et cette démarche, après que le domicile d'un officier de la BAC a été couvert de slogans anti-flic. Là, un cap a été franchi et vous vous en remettez désormais au Conseil de l'Europe.
Mais c'est-à-dire que le Conseil de l'Europe a une plateforme qui est la seule plateforme au monde qui signale les entraves à la liberté de la presse, les menaces, etc. Hier, à minuit, Monsieur Ricardo Gutiérrez, qui est le secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes, a eu la gentillesse de m'appeler à minuit. Pourquoi il m'a appelé à minuit ? C'est parce qu'il a considéré, je le cite, et j'ai son autorisation de le citer, que la situation en France concernant la presse était effrayante, que ce tweet était effrayant. C'est pas n'importe quoi, la Fédération européenne des journalistes. Ce sont des dizaines de milliers de journalistes. Mmh. Ils ont donc signalé sous cette plateforme du Conseil de l'Europe ce tweet en parlant d'intimidation. Il faut savoir que cette que la France, d'après Monsieur Guterres que j'ai eu au téléphone, la France est en quatrième position. Turquie, Russie, Ukraine, France, selon le Conseil de l'Europe, selon cette plateforme, d'atteinte à la liberté de la presse. Alors évidemment, on ne va pas comparer ce qui se passe en Turquie, en Ukraine et
je
en Russie.
Que ce serait
évidemment,
quand même vraiment très malvenu.
Je m'empresse de le dire. Ouais. Mais sauf que la France est quatrième. La France, cette année, 12 alertes en 2019, 8 en 2018, 7 en 2015. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des coups de butoir qui sont faits actuellement, à la fois sur la presse, mais pas seulement. Il y a d'autres syndicats de police qui ont mis en cause des syndicats de la magistrature, qui ont mis en cause des juges. Il y a des avocats qui ont été menacés par des syndicats de police. Il y a des sociologues qui ont été, comme Sébastien Rocher, qui ont été remerciés sous pression de syndicats de police pour ne plus aller enseigner dans certaines écoles de police. On en est là, c'est-à-dire qu'il y a une pression extrêmement forte qui n'est absolument pas gage de sérénité,
alors,
de débat.
Alors nous allons nous en tenir à la question de la presse. Il y a REC, R-E-C, un collectif de reporters très en colère qui dénonce les violences policières à l'encontre de la presse sur le terrain. Eux, ils ont recensé 200 cas. Vous, vous les avez comptés. On va en revenir à l'essence de votre travail, David Dufresne, depuis un an. Vous avez compté sur le terrain, compter et recenser, interpeller la place Beauvau systématiquement. Combien de cas pendant un an avez-vous recensé? De cas de journalistes?
De journalistes
interpellés, insultés, blessés?
Très exactement, 115. Dont 19 blessés à la tête. Et j'ai arrêté, moi, mes signalements concernant la presse début juillet. Aujourd'hui, donc, il y a ce collectif REC qui prend la relève, qui a comptabilisé pour le 5 décembre, 25 journalistes blessés, parmi lesquels deux qui sont dans la liste du tweet dont vous nous avez parlé, Gaspard Glance et Taha Bouaf, qui ont été atteints par des projectiles de la police. Je ne sais plus si c'est des LBD ou des grenades, etc. Qui sont blessés. C'est-à-dire que hier, Taha Bouaf a dû arrêter de couvrir la manifestation parce que son genou lui faisait mal.
Et ce n'est pas la première fois. Et c'est pas la première fois qu'il est atteint physiquement, qu'il est ciblé physiquement.
Voilà. Oui. Les deux ont été en garde à vue, etc. On leur a subtilisé leur téléphone. Enfin, je veux dire, on est dans un piétinement absolu, là, de la liberté d'informer.
Alors, il faut que nous revenions pour que tous les auditeurs comprennent comment votre travail a évolué, comment il a été repris, comment il sert désormais de source pour d'autres médias qui vous ont emboîté le pas. Il faut revenir sur ce compte Twitter d'Avdus. Donc, c'est un compte Twitter, c'est une syntaxe qui est toujours la même. À chaque fois, il y a un titre, il y a un numéro, puisque c'est du comptage. On est dans la data, c'est du quantitatif, c'est du chiffre. Il y a les faits, il y a la date, il y a il y a la source. Votre ton est resté délibérément extrêmement clinique et factuel pour pouvoir vous adresser au plus grand nombre.
Absolument.
Et pour pouvoir fournir quelque chose qui n'existait pas, ni journalistiquement, ni officiellement. C'est-à-dire le nombre de personnes atteintes par des débordements et des bavures des forces de l'ordre.
Et qui n'existe toujours pas. C'est-à-dire que on est capable, le ministère de l'Intérieur est capable, et c'est une bonne chose, de nous dire au nombre près combien de projectiles sont tirés par les forces de l'ordre samedi après samedi pour les gilets jaunes ou manifestations après manifestations. Mais vraiment, au nombre près. En revanche, sur les blessés, sur les victimes qui sont touchées par ces mêmes projectiles, là, c'est le trou noir, c'est l'angle mort. Et donc, effectivement, mon travail, il a comblé un manque. Et mon travail, s'il peut servir les syndicats de police, s'il peut leur servir de prise de conscience, moi j'en suis ravi. C'est-à-dire que la question, effectivement, c'est de le faire de manière le plus dépassionnée possible, factuelle, clinique, comme vous l'avez dit, d'ajuster, de confirmer, de modifier, s'il le faut, pour essayer d'être le plus... d'une certaine manière, le plus neutre possible.
C'est ça, c'est ça. Alors, il faut quand même savoir que vous avez été auditionné par plusieurs instances européennes que vous avez citées tout à l'heure. C'est-à-dire que la commissaire des droits humains au Conseil de l'Europe, vous avez été invité au Parlement européen, vous avez été auditionné à Paris par deux rapporteurs de l'ONU. Vous avez été reçu, place Beauvau, puisque c'est la place Beauvau. C'est pas la police nationale, c'est la place Beauvau que vous interpellez systématiquement depuis un an, David Dufresne.
Alors, j'ai pas été reçu par la place Beauvau. On m'a donné rendez-vous il y a pas longtemps dans un café en face de la place Beauvau.
Ah bon ?
C'est le CICOP, qui est le service de communication de la police, parce que je leur demandais de participer à un film que je prépare sur toutes ces questions. Alors qu'il est la place Beauvau, on va dire poliment, se tâte. Et d'une certaine manière, pour moi, ça pose la question du débat, de la démocratie, encore une fois, de l'article 12, de la force publique, c'est-à-dire que si les policiers ne veulent plus être observés et s'ils ne veulent plus débattre, théâtre. Quid du public?
Alors, le contexte a énormément changé en un an d'avis Dufresne. C'est-à-dire que vous étiez très seul il y a un an. Ça, il faut quand même le raconter parce que c'est quelque chose de majeur qui s'est produit dans la sphère des médias cette année. C'est-à-dire que vous étiez très seul, vous avez été aussi controversé, vous avez été aussi critiqué avant d'être suivi. Je prends un exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres. Il y a quelques minutes, Le Monde vient de publier une enquête vidéo sur les blessures d'un manifestant à Paris, place d'Italie, il y a 15 jours. Une précédente enquête vidéo reconstituait très minutieusement un cas de manière très factuelle et clinique, comme vous le faites, les blessures d'un manifestant à Bordeaux. La semaine dernière, Le Monde a publié une énorme enquête titrée, je cite le titre du Monde, « Allez-y, franchement, n'hésitez pas à percuter, ça fera réfléchir les suivants, le jour où la doctrine du maintien de l'ordre a basculé ». Vous étiez très seul, vous ne l'êtes plus du tout, David Dufresne.
On l'est moins, mais d'abord il y a tous ces vidéastes, ces photographes, ces caméramans qui sont pas tous aussi connus les uns que les autres.
Non.
Qui font ce travail de documentation. Donc effectivement aujourd'hui ça y est, c'est-à-dire que même BFM ne met plus de guillemets à violence policière. Voilà, les choses sont sur la table et c'est désolant parce que on préférerait qu'il n'y en ait pas.
Sauf que la profession s'est clivée, David Dufresne, parce que les Tahabouaf et les Gaspard Glanz sont des journalistes d'extrême gauche extrêmement engagés politiquement. Donc la profession n'a pas fait corps autour d'eux au départ.
Oui.
Là, quand je parle du Monde, là, on peut pas dire que.
Ce
soit un média altermondialiste.
Non, si vous voulez, d'abord, ça vous appartient de les classer d'extrême gauche, mais si vous voulez parler de journalistes militants, alors parlons de Dominique Seux, parlons de BFM, parlons du Figaro, parlons de Libération. Non, c'est pas peu importe. Parlons d'Albert Londres. Je veux dire, quand Albert Londres va à Cayenne, il y va pas en touriste.
Il y va
pour fermer.
Du tout une critique que j'adresse à ses confrères.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, la profession s'est divisée, elle n'a pas fait corps.
Elle a mis le temps. Voilà. Elle a mis le temps. Et effectivement, Le Monde, là, est en train de faire un travail formidable qui corrobore ce qu'on dit, qui corrobore ce que j'ai écrit dans mon roman, c'est-à-dire que effectivement, l'enquête dont vous parliez à l'instant, là, de ce week-end.
Roman qui s'appelle Dernière Sommation et qui vient de paraître chez Grasset, hein, parce que vous avez utilisé beaucoup d'outils journalistiques pour mettre en image tout ça, pour documenter tout ça, pour faire passer ce message. Et là, hop, vous faites un détour par la fiction.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que dans le roman, par exemple, il y a un personnage qui intrigue beaucoup les lecteurs, et qui est pourtant un personnage secondaire, qui est justement le syndicaliste de police. C'est ça qui est assez drôle par rapport à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire moi j'en vois plein des syndicats de police. Je vois même des patrons du community manager.
Sauf que quand vous les voyez en off.
Oui.
Et quand vous écrivez un roman, eh ben, il n'y a plus de off. Vous racontez tout.
C'est pour ça que je vais un peu plus loin, je crois.
Alors là, la fiction.
Ah oui. Oui, parce que justement, le off n'existe plus et donc on peut y aller. C'est un poste d'observation qui est absolument magnifique. Les flics dans mon roman parlent vraiment comme ils parlent dans la vie et non pas comme quand ils parlent à un journaliste à France Inter ou au Monde. Les auditeurs de France Inter ont sans doute dans leur oreille Monsieur Morvan qui est venu il y a quelques jours. Évidemment que Monsieur Morvan ne parle pas, je ne le connais pas, mais je me doute bien qu'il ne parle pas comme il a parlé à France Inter, évidemment.
Sur ce renversement médiatique auquel on a assisté depuis un an. Vous avez parlé de la victoire des médias faibles sur les médias forts.
Non, c'est un chercheur en médias qui a dit ça. Les médias faibles, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire tous ces automédias qui sont en train de se créer, ou ces médias indépendants, les reporters, les radioparleurs, les Bastamag, Mediapart étant la tête de pont, et tout un tas d'autres qui sont en train, effectivement, de faire... Je suis dans la même lignée, c'est-à-dire de combler un manque, de renverser la perspective, d'apporter un contre-champ. Qu'est-ce qu'ils font les Tahabouaf, les Gaspard Glanz? Ils apportent un contre-champ qui a tellement manqué à la presse.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
David Dufresne, le compte de David Dufresne est toujours actif. Je l'ai dit, la carte est toujours visualisable sur Mediapart. Et puis dernière sommation, le roman chez Grasset. Merci beaucoup David Dufresne. Bonjour Ali Réveil.
Bonjour Sénat de Villers.
Alors ce matin, on devient père.
Deuxième volet de notre émission consacrée à la paternité. Alors là, on sera ce matin dans la salle de travail et dans les tout premiers jours de la paternité. Vous pouvez réagir, témoigner sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand-Mère Vous Fasse.
Avec les hommes qui essayent de faire la respiration du petit chien à la place de leur femme qui accouche.